Regard sur la philosophie. Une chronique de Damien Legué sur Canal Académie.
Je voudrais consacrer notre regard sur la philosophie d'aujourd'hui à Claude Lévi-Strauss, en partant du livre d'Émilie Julia, Lévi-Strauss, l'homme derrière l'œuvre qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès. Ce livre d'Émilie Julia, qui est journaliste à Canal Académie, est à la fois un livre prétexte, parce qu'il renvoie et il invite à lire, bien évidemment, les œuvres de Claude Lévi-Strauss. C'est un livre aussi porteur de textes et d'entretiens, parce qu'elle collationne, elle rassemble des entretiens et des textes, et nous verrons lesquels, importants dans l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et puis surtout, c'est un livre ouvert sur les problématiques de l'époque, qui traverse effectivement tous ceux qui se réclament d'une manière ou d'une autre de Claude Lévi-Strauss, et donc qui va m'inviter, d'une part, à partir de ce livre-là et des entretiens, et d'autre part, de mettre en perspective la pensée de Claude Lévi-Strauss. Alors, Émilie Julia, elle, a eu la bonne idée pour le centenaire de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss a reçu la visite du président Sarkozy, a eu un nombre important et impressionnant d'hommages, tous plus variés les uns que les autres. Donc, Émilie Julia, elle, est partie un peu, disons, comme une ethnologue à la recherche de l'ethnologue du XXe siècle, Claude Lévi-Strauss, en non pas le rencontrant lui, mais en rencontrant des personnes qui connaissent. Et plutôt que d'ajouter de la glose à de la glose, à faire un énième essai sur la pensée de Claude Lévi-Strauss, elle est partie, elle a été rencontrer ces personnes, elle a essayé de donner à lire des documents, des discours qui donnent un relief particulier à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. La conviction d'Émilie Julia, et qui transparaît dans ce livre, est la suivante, c'est que derrière l'œuvre, ô combien impressionnante, il y a l'homme. Avec l'œuvre, il y a les hommes, les individus, les rencontres faites par Claude Lévi-Strauss, et donc aussi, bien évidemment, et nous le verrons avec Roger Caillois, les conflits qui ont pu naître. Donc, tout cela fait d'une certaine manière un portrait intéressant, passionnant à certains points de vue, de Claude Lévi-Strauss. Qui sont les personnes autorisées, enfin, d'une certaine façon, à parler ou à évoquer les rencontres qu'elles ont pu faire avec Claude Lévi-Strauss? Il y a d'une part Claudine Hermant, qui parle effectivement de ce Claude Lévi-Strauss à New York, au moment effectivement de la guerre, et qui rencontre là-bas, à New York, les surréalistes. Il y a Vincent Debanne, qui a organisé le volume de la Pléiade qui est consacré aux œuvres de Claude Lévi-Strauss, et tout le monde sait que peu nombreux sont les auteurs qui rentrent de leur vivant dans la Pléiade. Et Vincent Debanne, lui, insiste beaucoup sur la continuité de l'œuvre plutôt que la rupture. Et nous verrons jusqu'à quel point est-ce que cette continuité semble prévaloir ou peut prévaloir face aux ruptures. Il y a Jean-José Marchand qui, en 1972, et des éléments de cette rencontre figurent donc dans le livre d'Émilie Julia, Jean-José Marchand qui a rencontré Claude Lévi-Strauss et qui fait de lui un classique français. Françoise Héritier, qui a succédé d'une certaine façon, même si la chaire qu'elle occupe au Collège de France ne porte pas le même titre que celle qu'occupait Claude Lévi-Strauss, donc qui a succédé d'une certaine façon à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, en occupant depuis 1981 une chaire d'anthropologie. Ce que dit Françoise Héritier est intéressant de ce point de vue-là. Elle fait un rappel rapide, disons, des trois piliers, si on veut, du contrat social sauvage, si on peut dire ça comme ça, ou des fondements des sociétés sauvages. La prohibition de l'inceste, le contrat d'alliance entre les groupes et les individus, qui va conduire à l'échange des femmes, et puis la répartition sexuelle des tâches. Et on se souvient tous que, pour Claude Lévi-Strauss, la prohibition de l'inceste est considéré par lui comme le passage entre la nature d'une part et la culture d'autre part. La culture étant considérée par lui comme un ensemble de règles. Voilà. À partir du moment où une société s'impose à elle-même des règles et qu'elle les respecte, à ce moment-là, on quitte, disons, l'état de nature pour celui de la culture. Il y a aussi le témoignage de Philippe Descola, qui est considéré comme le dernier élève de Claude Lévi-Strauss. Et puis, alors, il y a la moitié de l'ouvrage qui est consacrée aux différents, à l'opposition, au conflit entre Claude Lévi-Strauss d'une part et puis Roger Caillois d'autre part, au moment où Claude Lévi-Strauss a été reçu à l'Académie française, mais nous y reviendrons. Alors, il faut écouter aussi, mais qui n'est pas dans le livre, mais qui est tout à fait passionnant, un entretien qu'Émilie Julia a eu avec André Comte-Sponville en juin 2008 et qui est sur le site de Canal Académie. Bon, rencontre assez intéressante, passionnante même, où André Comte-Sponville indique que, par exemple, les 12 dernières pages de Triste Tropique font partie des 4 ou 5 plus beaux textes de la pensée française depuis 60 ans. Et alors, ce qui est passionnant dans cet entretien, c'est qu'il dresse d'une certaine façon les points de jonction entre lui, André Comte-Sponville, et puis Claude Lévi-Strauss, ou l'inverse, si on respecte les ordres de priorité. Alors, je les cite. Premier point, l'éthique du désespoir. Clairement, Claude Lévi-Strauss ne voit pas, ne perçoit pas de transcendance, mais pour autant, il pense qu'il faut, et ça fait partie des textes qui sont les siens, il faut vivre et lutter et croire et garder, surtout, courage. Voilà, donc éthique du désespoir, c'est de non pas tomber dans le désespoir, mais garder dans le désespoir le courage pour aller de l'avant. Deuxième point, c'est le matérialisme qui est effectivement relativement clair. Troisième point de jonction et qui permet de rentrer dans ce débat, dans cette analyse, dans cette compréhension de la pensée de Claude Lévi-Strauss, la critique des illusions du sujet. La critique des illusions du sujet, donc qui est partagée, disons, par tous ceux qui laissent à penser qu'il n'y a plus de transcendance et que le sujet est, d'une certaine façon, la somme de ces illusions. Donc tous ceux qui, avec Claude Lévi-Strauss et d'autres, bien évidemment, ont rompu, ont cassé le cogito cartésien et donc qui considèrent que je suis, moi qui existe, je suis la somme de mes illusions et que je dois accepter d'être illusoire à moi-même. Autre point paradoxal, d'un certain point de vue, c'est le dédain de Claude Lévi-Strauss et d'André Comte-Sponville pour l'art contemporain. Alors évidemment, il y a des pages, quand on lit Claude Lévi-Strauss, on est surpris à la fois par ce dédain-là, d'une part, et deuxièmement, par l'amour qu'il a pour les romans classiques, pour Rousseau, pour Diderot, pour la peinture de Poussin, etc. Bon. Au point que Claude Lévi-Strauss vient à se lamenter pour ce métier perdu des peintres, dit-il. Autre point est relatif, disons, au relativisme culturel des valeurs. Alors c'est là, effectivement, où nous allons rentrer, grâce à ce point, dans une discussion, ou dans la discussion qui a opposé Claude Lévi-Strauss avec Roger Caillois, et qui constitue la moitié, d'une certaine façon, de l'ouvrage qu'Émilie Julia a consacré à Lévi-Strauss. Alors, il partage donc, Claude Lévi-Strauss et Comte-Sponville, ce relativisme culturel des valeurs. Mais, dit André Comte-Sponville, ce relativisme des valeurs ne va pas jusqu'au relativisme de la vérité. Et donc, il y a, dans le beau et dans la vérité, la vérité scientifique, vérité effectivement des connaissances, il y a là quelque chose qui n'est pas englobé, d'une certaine façon, par ce relativisme des valeurs. Donc je renvoie à tous ceux qui veulent prolonger ce rapprochement, cet hommage rendu par André Comte-Sponville à Claude Lévi-Strauss, je les renvoie donc sur le site de Canal Académie à cet entretien tout à fait passionnant entre le philosophe et Émilie Julia. Je voudrais en venir, parce qu'effectivement c'est un point important du livre, au conflit entre Caillois et Claude Lévi-Strauss. Alors, il faut se souvenir, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, du moment de la réception de Claude Lévi-Strauss à l'Académie française le 27 juin 1974. Claude Lévi-Strauss est de cette façon au summum de sa gloire, et Roger Caillois, lui, dit Jean d'Ormesson dans le livre, qui connaît bien et qui aime beaucoup Roger Caillois, souffre un peu de cette forme de dilettantisme, si l'on veut, ou de ce côté touche-à-tout de Roger Caillois qui, d'une certaine façon, fait perdre un tout petit peu de crédibilité à son propos. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, et au regard des textes qui nous sont donnés à lire, la pertinence de la critique faite par Roger Caillois est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Comme il se doit, Roger Caillois reçoit Claude Lévi-Strauss, qui vient d'entrer donc à l'Académie française, et après avoir entendu ce que Claude Lévi-Strauss dit à la fois de l'Académie française et de ses rites, qu'il considère lui comme d'une certaine façon une tribu, enfin l'Académie française comme une tribu comme une autre, enfin, qu'il regarde avec bon, et après avoir entendu l'hommage habituel, normal, de Claude Lévi-Strauss à Henri de Monterland, Roger Caillois, donc, à ce moment-là, fait un discours où, contrairement à l'habitude, plutôt que d'arrondir les angles, il les émousse, d'une certaine façon, il les met en évidence, ce qui donne à cette séance de l'Académie française un piment particulier qui reste toujours aujourd'hui. Il faut dire, donc nous sommes là en 1974, il faut dire que la querelle entre Caillois et Claude Lévi-Strauss remonte à 1955. En 1955, Claude Lévi-Strauss publie un discours qu'il a fait, une contribution qu'il a donnée à l'UNESCO sous le titre donc de « Race et histoire » en 1952. Et Roger Caillois, juste après, en 1954, fait un article qui s'appelle « Illusion à rebours » contre la posture et contre la position de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, quand on relit le texte à distance, avec un ton sec, presque méchant, répond à Roger Caillois dans un article des temps modernes de mars 1955 qui s'appelle « Diogène couché ». Et puis, d'une certaine façon, considérant que Claude Lévi-Strauss fait partie de ces penseurs structuralistes qui dominent, d'une certaine façon, la scène intellectuelle, cette querelle-là disparaît progressivement. Et puis, donc, rebondit fortement ce 27 juin 1974. Alors, que dit Roger Caillois, ce qui est tout à fait passionnant, et effectivement, le discours est là, intégralement donné dans le livre d'Émilie Julien. Au début, il raconte effectivement la vie de Claude Lévi-Strauss, ce qui est normal et naturel. Il fait part de ses goûts classiques, et surtout des goûts classiques de sa famille, de l'admiration que son père a pour la peinture de Quentin Latour. Le père de Claude Lévi-Strauss était lui-même peintre, et donc l'éducation classique qu'il a reçue. Son agrégation de philosophie, parce que n'oublions pas que Claude Lévi-Strauss est philosophe de formation, son voyage chez les sauvages, entre guillemets, New York, le Collège de France, etc., etc. Et puis, on en vient aux critiques, à proprement parler, de Claude Lévi-Strauss. Alors, essayons de les distinguer les unes après les autres. La première critique de Claude Lévi-Strauss par Roger Caillois est celle relative au paradoxe de l'anthropologue. Enfin, d'une certaine façon, l'anthropologue qui vient observer, dit Roger Caillois, qui vient observer l'innocence d'un peuple qui ne connaît pas la civilisation, cet anthropologue détruit, d'une certaine façon, apporte par lui-même, apporte par ses instruments, par son analyse, par tout ce qu'il est, apporte la civilisation en dehors de laquelle les sauvages, entre guillemets, sont. Première critique. Deuxième critique, une croyance diffuse et qui est, dit Roger Caillois, consubstantielle à l'ethnologue, la croyance donc dans le mythe du bon sauvage ou dans le bon sauvage. D'une certaine façon, on peut considérer que Claude Lévi-Strauss est un adepte des cultures qui devraient rester figées à leur stade de développement. Et avec beaucoup de mordant et d'ironie, Roger Caillois, et je le cite, dit « Qu'aurait-il dit à l'époque romaine les ancêtres de ces savants généreux qui, appartenant peut-être aux tribus les plus rudes de Gaule et de Germanie, si ces ethnographes de l'époque avaient exigé qu'on les confinât dans leur singularité remarquable, compris les mesures nécessaires pour que ne fût ni détruite ni saccagée l'originalité de leur culture, qu'on les retint de s'initier aux nouveautés apportées par l'envahisseur, afin qu'ils ne se réveillent pas absorbés dans une civilisation uniforme, utilitaire et sans âme. S'il en avait été ainsi, monsieur, donc dit Roger Caillois à Claude Lévi-Strauss, où seriez-vous ? J'estime, continue Caillois, que les ethnographes et anthropologues d'aujourd'hui ne se mettent pas assez à la place de leurs aïeux, auxquels ils ont cessé de ressembler, et qui furent en leur temps des sauvages, aussi près de la nature que ceux qu'ils ont aujourd'hui loisir d'observer. Donc il y a bien là, avec tout l'ironique que nous connaissons de Roger Caillois, une critique de cette croyance, effectivement, du bon sauvage. Troisième critique de Roger Caillois, celle relative au refus, d'une certaine façon, de l'histoire qu'auraient les sauvages, entre guillemets. Roger Caillois s'amuse, considérant effectivement que les mêmes anthropologues qui viennent constater, d'une certaine façon, l'état d'innocence des sauvages, entre guillemets, et quand je dis sauvage, je renvoie évidemment à la pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss, reviennent chez eux et profitent pleinement de la civilisation et des bienfaits de la civilisation qui, d'une certaine façon, n'a pas atteint ou n'a pas pollué les dits sauvages. Autre point de la critique, quatrième point de la critique, c'est une critique plus générale à l'égard des sciences humaines qui finissent d'une certaine façon, c'est un peu le travers du structuralisme et de toutes ces sciences humaines qui envahissent le champ intellectuel dans les années 50-60. Donc, critique de ces sciences humaines qui finissent par tout expliquer. Je cite Roger Caillois, « La méthode structurale n'échappe pas par grâce merveilleuse au péché originel des sciences humaines qui est de passer peu à peu de la conjecture plausible à une sorte de déductivité irrécusable, infaillible en toutes circonstances. » Effectivement, il renvoie là au terme de structure qui effectivement est présent, extrêmement présent et même central dans la pensée de Claude Lévi-Strauss. Donc tous les termes du débat sont là et Jean d'Ormesson, qui effectivement a facilité donc l'entrée de Claude Lévi-Strauss à l'Académie française et qui était un grand ami de Roger Caillois, souligne dans le livre effectivement le trouble, l'émotion, le caractère effectivement un peu surprenant, loin de la diplomatie académique habituelle de cette réception et donc de ce discours. Alors je voudrais dans une dernière partie élargir un tout petit peu le propos, ou du moins prolonger le propos et les critiques de Roger Caillois à l'égard, donc essentiellement, c'est le point le plus important, porte donc sur ce texte « Race et histoire » de 1952, où manifestement Roger Caillois s'en prend à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement il y aurait une culture centrale, celle de l'Europe, et puis les autres seraient périphérique, secondaire, inférieur. Donc il s'en prend à l'ethnocentrisme et à l'évolutionnisme des Européens. L'évolutionnisme des Européens, ça veut dire qu'il y aurait effectivement des stades de développement et que donc les Européens seraient au stade ultime du développement alors que les autres seraient derrière. Ce texte de 1952, et qu'on se retrouve effectivement un peu partout dans l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, est une remise en cause, ou du moins ça a été considéré comme tel par beaucoup, du concept de civilisation. Alors le problème, c'est que la civilisation, le progrès, l'évolution renvoient, disons pour faire simple, à Condorcet, et renvoient à une pensée des Lumières qui considère qu'il y a effectivement un progrès, qu'il y a un progrès cumulatif, et que, au nom de ce progrès cumulatif, on est susceptible, comme ça a été le cas effectivement au XIXe siècle, d'aller coloniser, donc aller apporter la bonne parole de la civilisation aux peuples qui n'en ont pas profité, comme, pour reprendre ce que disait Caillois, comme les Romains sont venus effectivement coloniser la Gaule pour leur apporter des progrès dont nous jouissons aujourd'hui. Alors, sur ce thème-là, sur ce terrain-là, Alain Finkielkraut, par exemple, dans La défaite de la pensée, est un peu agacé, irrité par ces anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, qui remettent en cause cette croyance, celle des Lumières, et qui nourrissent, je le cite, une mauvaise conscience de l'Europe, mauvaise conscience des Lumières, mauvaise conscience de la supériorité de l'Europe et des Lumières à l'égard des autres cultures. Ce qui tombe, d'une certaine façon, dit Alain Finkielkraut, ce qui tombe, ce qui choit, c'est l'idée d'une évolution linéaire de l'humanité et, dit-il un peu plus loin dans son texte, ainsi donc cette idée d'un Occident qui affirme sa prédominance mondiale et donc une remise en cause de cette affirmation, de cette prédominance mondiale et le doute ethnologique légitime, cette remise en cause de la domination. Il n'y aurait donc pas une civilisation mais des civilisations, non pas une culture mais des cultures. Et dès lors, la frontière entre la civilisation et puis le reste, le reste, c'est quoi? C'est la barbarie, sont plus incertains. Au point que, effectivement, Claude Lévi-Strauss dit clairement que le barbare, de cette façon, c'est celui que l'on croit être barbare. Quand on croit à la barbarie, on voit en face de soi un barbare. Et donc, il y a une forme de, en retour, de culpabilité des Lumières d'avoir cru à cela. Nous sommes là, et Alain Finkielkraut le dit clairement, nous sommes là dans, effectivement, une pensée large, structurale, qui annonce à la fois la mort de l'homme, au sens d'un homme avec un grand H, qui est celui qui est susceptible de s'affirmer dans son humanité à l'égard de tous les autres, et puis même de l'histoire, s'il n'y a plus de progrès, ou si le progrès est relativisé, s'il n'y a plus une Europe qui propage les progrès et les lumières à l'égard du reste des civilisations, sommes-nous encore effectivement dans l'histoire, nous pouvons effectivement en douter. Et donc si on prolonge ce que dit Alain Finkielkraut, on peut considérer, non sans pertinence, que Claude Lévi-Strauss, de lui-même ou à son corps défendant, nous allons y revenir, mais de lui-même ou à son corps défendant, est un peu le père du multiculturalisme actuel et de cette mauvaise conscience européenne qui se permet de juger l'histoire passée, l'histoire de l'Europe elle-même, au regard de l'idée qu'elle se fait elle-même des valeurs à l'égard des femmes, à l'égard des esclaves, etc., etc., au point de délaisser, de considérer que tout cela tombe dans le procès actuel de la modernité à l'égard de son histoire, et donc de se séparer de cette même histoire, la jugeant aujourd'hui comme étant non conforme aux valeurs promises aujourd'hui. Alors, il y a bien là, et j'en terminerai sur ce point, il y a bien là une opposition que nous avons vue d'une certaine façon entre Roger Caillois et Claude Lévi-Strauss, entre d'une part, si vous voulez, Montesquieu, Roger Caillois étant grand admirateur de Montesquieu, et puis Rousseau, voilà, ce mythe du bon sauvage, ce rousseauisme diffus, présent et ou diffus, dans la pensée de Claude Lévi-Strauss, qui admire beaucoup Rousseau, avec, dans cette pensée de Claude Lévi-Strauss, ou de ceux qui s'en réclament, une forme de nostalgie pour un archaïsme primitif, pour une harmonie première, pour ce bon sauvage. Et donc, d'une certaine façon, nous sommes bien là, dans une pensée moderne, post-moderne, hein, qui, à la fois, élimine l'Occident, ou qui tente à critiquer de l'intérieur l'Occident, comme étant le moteur de l'histoire, d'une part, et deuxièmement, qui remet en cause tous les éléments qui laisseraient effectivement à supposer que l'homme occidental est celui qui est le plus avancé, le plus en avant, et tous les autres, tous les autres peuples doivent, devraient, voilà, de certaine façon, rejoindre cela. Et donc, cette critique très forte et excessive par bien des côtés de l'Occident, et nous avions reçu il y a quelque temps Jean-François Mattei justement sur cette question de l'Europe et de la barbarie intérieure, donc cette critique excessive par certains côtés de civilisation, de cette prédominance de l'Europe à l'égard des autres cultures, donc trouve aussi, non pas son point d'appui, mais trouve sa légitimité anthropologique, hein, sa légitimation dans l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Alors en conclusion, je voudrais juste considérer effectivement qu'il y a, me semble-t-il, un paradoxe, et ou même plusieurs, dans l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Et que met bien en évidence le livre d'Émilie Julia quand elle rapporte ou quand elle donne la parole à beaucoup d'intervenants. Le paradoxe, d'une certaine façon, disons que c'est celui du classique chez les sauvages. On peut considérer effectivement que Claude Lévi-Strauss est un classique, un homme qui aime par-dessus tout la culture classique et qui fait la promotion ou qui découvre ou qui met en évidence cette pensée sauvage, titre d'un de ses livres, et qui dès lors déconstruit, détricote d'une certaine façon l'optimisme des Lumières. Mais celui-là même qui détricote l'optimisme des Lumières est un aristocrate de l'esprit, un aristocrate de l'intelligence. Qu'aime-t-il ? Il aime, et ses livres, surtout ceux de la fin, le montrent. Il aime Rameau, il aime Poussin. Pour lui, d'une certaine façon, un bon romancier est un romancier qui est mort depuis 100 ans. Que relit-il quand il est chez lui ? Il relit Jane Austen, Conrad. Voilà, donc ce paradoxe du classique chez les sauvages, cet homme de la civilisation européenne et qui l'aime, la pratique, la lit, la voit, etc., est celui-là même qui, effectivement, a participé, de lui-même ou à son corps défendant, à ce détricotage de l'optimisme des Lumières et donc de cet ethnocentrisme, pour employer un barbarisme, qui a fait florès au 18e, au 19e surtout, jusqu'à effectivement le grand moment de décolonisation que nous avons connu. Alors si on veut aménager ce paradoxe, il faut bien mettre en évidence, un, les mises en garde de Claude Lévi-Strauss lui-même sur son œuvre, deux, se dégriser d'une certaine façon des modes, et en particulier de la mode structuraliste qui a fait florès dans les années 70, de considérer qu'il y a toujours un distinguo à faire entre la subtilité de la pensée d'un maître et puis peut-être les caricatures de ses disciples, hein, distinguons toujours Rousseau et le rousseauisme, et distinguons toujours Claude Lévi-Strauss et ceux qui se réclament de ce structurisme-là. Mais pour terminer complètement mon propos, je poserai deux questions ouvertes. D'une certaine façon, jusqu'à quel point Claude Lévi-Strauss a pensé contre lui-même ? Jusqu'à quel point est-ce que cette critique, cette autocritique, cette critique de ce qu'il était, de ce qu'il portait, du classicisme qui était le sien, ne l'a pas emporté peut-être plus loin qu'il le pensait, ou jusqu'à quel point il a réussi à aménager en lui-même, donc dans son œuvre, cette description valorisante pour certains du bon sauvage et ce maintien d'une aristocratie de l'esprit qui est effectivement clairement la sienne. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, jusqu'à quel point peut-on considérer qu'il y a un seul Claude Lévi-Strauss ? Disons, pour le dire autrement, il y a plusieurs Claude Lévi-Strauss, même si son œuvre est là, unique, qu'elle est écrite par la même personne. Il y a plusieurs Claude Lévi-Strauss, d'où l'idée qu'il n'a pas aujourd'hui d'héritier, au sens propre du terme. Et que ceux qui s'en réclament prennent ici ou là tel ou tel aspect de sa pensée, mettant l'accent soit sur son classicisme, soit sur effectivement son rôle fondamental dans le développement de l'anthropologie, soit sur cet amour qu'il a, cette découverte qu'il a de cette pensée sauvage, soit sur, comme je le disais, Rameau, Diderot et autres. Donc on peut dire qu'effectivement, jusqu'à un certain point, d'une part, Claude Lévi-Strauss a pensé contre lui-même et peut-être même au-delà de lui-même, d'une part. Et deuxièmement, il n'y a pas un Claude Lévi-Strauss, mais chacun est venu, comme les pensées riches et fécondes, est venu s'abreuver comme ça à l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, prenant ce qui l'intéressait sans maintenir nécessairement complètement toute la cohérence difficile à tenir de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss. Je vous remercie.